Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. Qui que vous soyez, quel que soit l'itinéraire qui vous a amené ici, quelle que soit l'Église à laquelle vous apparteniez, et même si vous n'appartenez à aucune Église, la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données par Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Frère. Et les amis qui ont préparé cette célébration nous proposent de commencer par ce chant d'entrée, « Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour ». Et donc ensemble, nous pouvons, oui, nous rassembler autour de ce gospel.
Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants.
Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Journée exceptionnelle aujourd'hui. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Donc, bonjour à la Côte-Nom Béthanie, bonjour à la Maison Verte, bonjour au Carrefour des Chrétiens Inclusifs, bonjour à l'association d'Ève des Jonathan. Pourquoi journée exceptionnelle? Eh bien, parce que, comme vous le savez, la loi sur le mariage pour toutes et tous a été définitivement adoptée cet après-midi, grâce à l'avis favorable du constitutionnel. Donc c'est une grande nouvelle, c'est une journée historique. Et puis c'est une journée exceptionnelle aussi parce que c'est 17 mai. 17 mai, depuis des années, le 17 mai, dans plus de 70 pays du monde, c'est la journée mondiale contre l'homophobie et contre la transphobie. Merci à Louis-Georges Thin pour tout ce qu'il fait depuis des années. Il a été appelé, je l'ai appelé, mais il ne pouvait pas venir ce soir, mais il nous salue. Donc, c'est un grand combat, sans doute, la loi sur le mariage pour toutes et tous, mais le combat contre l'homophobie et la transphobie, lui, est loin d'être terminé. Nous savons que, notamment ces derniers mois, il y a eu beaucoup plus que d'habitude, beaucoup plus d'actes homophobes. Donc restons vigilants. Nous, Association David et Jonathan, depuis 41 ans, à notre manière, nous luttons contre l'homophobie. Nous avons, avec l'IDAO, donc Louis-Georges, engagé de nombreuses actions, notamment, il y a des personnes, Marina notamment, qui avait été avec nous, en 2010-2009, le chantier « Religion et homosexualité ». Non, c'était religion, homophobie, transphobie. Nous avions notamment organisé un colloque à l'Assemblée nationale avec les différents représentants des églises et des associations. Le Bet Avrim, association juive, et HM2F, association des musulmans, sont également parmi nous par la pensée. Ils voulaient venir, ils n'ont pas pu. Alors voilà, donc ce soir, prions, partageons, témoignons, chantons, pensons à toutes les personnes, femmes et hommes, qui luttent, qui sont victimes d'actes homophobes ou transphobes. Et puis n'oublions pas que l'homosexualité n'est pas un péché, l'homosexualité n'est pas un crime. Incontestablement, l'homophobie est un péché, l'homophobie est un crime. Bonne soirée.
Alors merci beaucoup Monsieur le Président. Donc. Et puis un grand bienvenue donc à Jacques Fressigne qui est un des fondateurs de David et Jonathan. Bienvenue bien sûr au Père Jacques Mérienne qui est le curé de Saint-Méry et qui est très engagé donc bien sûr pour accueillir chanter Dieu tous les mois. Donc c'est vraiment une joie de se retrouver ici avec cette dimension œcuménique bien sûr. Et pour ce combat qui est évidemment non seulement légitime, mais une vocation, je pense, vraiment des chrétiens aujourd'hui, au nom de l'Évangile, au nom du Christ, et bien de dire vraiment que, je ne sais pas si l'homophobie est un péché, mais en tout cas c'est un mal, et c'est certainement quelque chose contre lequel nous devons vraiment nous engager et avoir vocation à être pèlerin pour annoncer que ce n'est pas, l'homosexualité n'est pas un péché, que ce n'est pas une faute. Et c'est vrai que ce n'est pas évident à dire, puisque je le vois sur Internet, si vous voulez, chaque fois qu'on a un mot pour dire justement que l'homosexualité n'est ni une faute ni un péché, eh bien, on reçoit 20 mails d'injures. Comme quand on dit finalement que l'islam n'est pas une mauvaise religion en soi, c'est pareil, c'est les deux sujets, j'allais dire, les plus en pointe, les plus appelants, le plus de violence, le plus de haine aujourd'hui. Donc c'est particulièrement, je crois, la vocation des chrétiens d'annoncer la paix et d'annoncer la dignité, d'annoncer le respect et d'être à la pointe dans ce combat donc contre l'homophobie. Alors je crois que maintenant nous allons... Est-ce qu'il y a encore une prise de parole pour accueillir chaleureusement celles et ceux qui sont là aujourd'hui ? Eh bien je crois que donc maintenant c'est au tour de ceux qui vont nous mener dans ce psaume 91 qui est un psaume de confiance en Dieu.
Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe mille à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds, je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier, de longs jours je veux le rassasier, et je verrai qu'il voit mon salut. Chante Alléluia au Seigneur, chante Alléluia au Seigneur, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur,
ensemble,
chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au
Seigneur. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus que Jean et baptisait plus que lui. À vrai dire, ce n'était pas Jésus lui-même, c'était ses disciples qui baptisaient. Quand Jésus apprit cela, il quitta la Judée pour retourner en Galilée. Il devait donc traverser la Samarie. Il arrive ainsi à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : Donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit : Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire ? à moi, une Samaritaine ? En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif, que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je le vois. Tu es un prophète. Alors explique-moi. Nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi. L'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Moi qui te parle, je le suis. » Là-dessus, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que demandes-tu ?» ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-il pas le Messie ? Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers Jésus.
nous avons une chance, c'est que cet évangile selon saint Jean a été livré avec un mode d'emploi, ce qui est en fait assez rare. Alors c'est vrai que maintenant il y a des appareils comme je ne sais pas quoi, l'iPhone, on ne lit même pas le mode d'emploi, théoriquement ça devrait marcher tout seul sans qu'on lise le mode d'emploi. Ben, en fait, pour certains appareils, c'est plus délicat et sans mode d'emploi, on s'en sort que difficilement. Et peut-être que l'évangile est comme cela. En tout cas, à la fin du chapitre 20 de cet évangile, le rédacteur nous dit un peu comment comprendre, comment fonctionne son texte. Et il explique que chaque acte de Jésus raconté dans son livre, dans l'évangile selon Jean, est à considérer comme un signe qui est écrit afin que nous puissions avoir vraiment la vie par la foi en Jésus-Christ. Et donc cela veut dire que ce texte, les épisodes qui sont racontés ici, même les plus fins, les fins détails, sont à lire comme des signes qui nous appellent à avoir la vie. Et comme tous les signes, eh bien, ça demande à être interprété, comme les petites pattes de mouche qui sont de l'encre collée sur ce papier blanc. Elles sont à interpréter et quelqu'un qui ne connaîtrait pas cette interprétation aurait du mal. Et donc nous devons interpréter, lire comme un signe, des détails aussi infimes que Jésus s'assit au bord du puits aux environs de midi. Il y a là une nouvelle qui nous est donnée, un signe que l'on doit interpréter pour y trouver quelque chose qui nous donne d'être un peu plus vivant ou d'avoir une qualité d'être, une qualité d'humanité, peut-être aussi une dimension supérieure, divine, qui nous conduise à être dans la vie et à être source de vie. Alors, il y a une infinité d'interprétations de ces signes qui sont donnés dans l'Évangile et chaque personne, avec ce qu'elle est, avec sa sensibilité, à un moment donné de son existence, est appelée à trouver le sens de cette Écriture qui nous est confiée pour que nous l'interprétions. Alors, comment lire ce texte pour aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut faire un signe pour notre temps? Alors, je vous propose trois lectures. La première, plutôt sociale. Il y avait une évidence au temps de Jésus, ça ne se fait pas à un juif de parler à un samaritain. Et ça se fait encore moins quand c'est une femme, une samaritaine. Alors pourquoi est-ce que ça ne se fait pas? Parce que ça ne se fait pas. C'est une évidence, ça ne se discute pas. Il faut respecter parce qu'il y a des différences, il y a des séparations et qu'il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. C'est comme ça. Et donc ce texte est signe pour nous ouvrir les yeux, pour ouvrir les yeux des contemporains de Jésus, de ceux qu'ils rencontrent. Et ce texte a été écrit pour que de génération en génération, on puisse changer notre regard, que ce signe nous appelle à une transformation de notre être. Alors bien entendu, si vous voulez, ce n'était pas du tout évident qu'il puisse y avoir ainsi un rapport d'égalité finalement entre un homme et une femme. C'est pas du tout évident que Jésus puisse envoyer ainsi cette femme, cette samaritaine, aller annoncer la bonne nouvelle, puisse aller avoir une parole d'autorité, un enseignement auprès des gens de sa ville. C'était pas du tout évident quand Jésus envoie Marie-Madeleine au matin de la résurrection, l'envoie annoncer l'évangile à l'assemblée des apôtres dans la chambre haute. Ce n'était pas du tout évident que ce soit une femme qui soit ainsi nommée apôtre des apôtres. Ce n'était pas évident qu'une femme puisse avoir ce rôle-là. Eh bien, pourtant, Jésus a eu ses gestes, si vous voulez. D'abord parce que ces femmes étaient elles-mêmes, mais aussi pour que ça fasse signe pour son temps. Alors c'est l'Église, rassurez-vous, a vite repris les choses en main, et après la première génération où il y a eu des apôtres, où il y a eu des diacres, assez rapidement quand même les choses sont rentrées dans l'ordre. Voilà, ça va mieux comme ça. On retourne au machisme ordinaire et au communautarisme ordinaire, si vous voulez. Et c'est pour ça que j'hésitais, si vous voulez, à dire que l'homophobie est un péché, parce que si vous voulez, c'est... Ça peut l'être parfois, c'est-à-dire quand délibérément, consciemment, on a un modèle, si vous voulez, une volonté délibérée de haine, de rejet. Mais souvent, si vous voulez, c'est pas aussi clair que ça. C'est une phobie, si vous voulez. Et les phobies, c'est difficile parce que ça coule comme le sang dans nos veines, si vous voulez. Et donc, c'est pas facile le matin de se lever et de dire « Pan, je vais changer de regard ». Ça demande une conversion, ça demande une guérison, ça demande un miracle, en fait. Et on le voit, si vous voulez. Aujourd'hui, quel homme politique dirait « Tiens, j'ai une idée, tout d'un coup. On va faire une loi pour... on va changer la Constitution, supprimer le droit de vote aux femmes. Tiens, quelle bonne idée. » Je veux dire, personne n'y pense une seconde. Et pourtant, du temps de nos grands-parents, peut-être de nos arrière-grands-parents pour certains, bon, mettons, il y a 70 ans, si vous voulez, c'était pas du tout évident. Et il n'y aurait pas eu, il n'y avait pas la majorité au Sénat, par exemple, pour décider que les femmes, tiens, pourraient avoir le droit de vote après tout, puisqu'ils ont une âme, peut-être, semblerait-il. Alors, si vous voulez, c'est pour replacer dans le contexte, si vous voulez. C'était pas du tout évident. L'antisémitisme, si vous voulez. L'antisémitisme, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est devenu moins pensable, à moins d'y mettre vraiment une bonne volonté extraordinaire, d'accord. Mais il y a 100 ans, si vous voulez, c'était pas si évident, si vous voulez. Donc oui, c'est une évolution des mentalités. Et finalement, c'est à cela que nous appelle l'Évangile, avec ce signe. Car quand Jésus a ce geste, si vous voulez, contre un communautarisme, contre un sexisme, contre un machisme évident, eh bien, il pose un signe qu'il faut extrapoler, bien entendu, parce que ce texte, supposez qu'il soit lu, par exemple, dans une société assez rare, cela dit, mais matriarcale, où les femmes auraient le premier plan et où elles régneraient sur des hommes qui seraient destinés à faire la vaisselle et à rester bien fermés à la maison pour pas qu'il y ait de désordre. D'ailleurs, peut-être que le monde se porterait mieux, je ne dis pas. Mais dans une société comme ça, très matriarcale, ce texte disait, ben oui, voilà, c'est la preuve qu'il faut continuer dans ce bon système où les femmes ont le dessus et où les hommes sont des carpettes. C'est marqué. Donc il faudrait traduire, si vous voulez, ce texte, ce geste de Jésus, le traduire pour lutter contre un autre sexisme ou contre d'autres communautarismes. Et aujourd'hui, je crois vraiment, oui, qu'il y a dans ce geste de Jésus un signe pour notre temps, en particulier contre l'homophobie, et peut-être aussi contre des communautarismes, une haine contre l'islam, contre le judaïsme, contre voilà, des communautarismes, si vous voulez. Alors oui, je crois qu'il y a vraiment un geste là, il faut extrapoler. Et Jésus, quand il parle, il nous dit « Je suis venu, si vous voulez, pour que ceux qui voient deviennent aveugles et pour que les aveugles retrouvent la vue. » Alors oui, il faut que ceux qui voient deviennent aveugles. Il y a des choses qui nous paraissent des évidences totales, comme il y a quelques générations, c'était évident qu'une femme ne devait pas avoir le droit de vote, que c'était évident qu'une femme, pour la même tâche, devait être payée moins qu'un homme, puisque c'est une femme, quelle évidence. Alors oui, il y avait des évidences, voilà, qu'il y a des choses qui, aujourd'hui même, ne nous posent même pas question, parce que pour nous, voilà, on est sûr de voir clair, et donc il faut, oui, que sur ces points-là, sur ces évidences, pour ces tabous, pour ces vérités éternelles, nous puissions devenir aveugles et ne plus voir aussi clair ces préjugés qui nous empêchent de voir. Et que par contre, nous ayons une vue plus nette et plus claire de la vraie réalité, de la vraie valeur des êtres, la vraie valeur des relations, et puis la valeur extraordinaire de l'idéal, de fraternité universelle, de respect de l'autre, et que nous propose l'Évangile de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, il y a particulièrement besoin, je crois, de retrouver un sens de ce texte. La deuxième lecture que je vous propose, c'est une lecture morale. Cette femme, paraît-il, était une femme de mauvaise vie. Elle a eu 5 maris, elle en a peut-être eu un 6e qui n'est pas un mari. Qu'est-ce qu'elle faisait, donc, de sa vie conjugale, que sais-je ? Et donc peut-être qu'à midi, elle devait, à l'heure où personne ne va chercher de l'eau dans la pleine chaleur du jour, elle allait chercher l'eau au puits pour ne pas avoir à subir la honte, les quolibets, les moqueries, les regards de travers des autres. Alors, nous pouvons aussi avoir, effectivement, comme Jésus, Eh bien, le courage d'aller en plein midi, même s'il fait chaud, même si on est fatigué, à la rencontre de celui qui est exclu de la société par sa mauvaise vie. Alors oui, aux yeux de beaucoup, quelqu'un qui vit en couple homosexuel est quelqu'un de mauvaise vie. Eh bien, même s'ils pensent cela, peut-être parce que dans leur éducation, dans leur conception, ça leur a été enseigné comme ça et qu'ils n'ont pas eu le recul, eh bien, même si c'était le cas, ils devraient vraiment se dire, eh bien, puisqu'ils sont de mauvaise vie, je vais aller vers eux, je vais parler, je vais rencontrer. Et peut-être que rencontrant, ils comprendront un peu, ils comprendront mieux. Donc oui, je ne pense vraiment pas, comme on le disait tout à l'heure, que c'est un péché, que c'est une faute de vivre en couple homosexuel. Au contraire, nous sommes appelés, et c'est pour ça que je suis vraiment très favorable au mariage des homosexuels, parce que je crois que le couple homosexuel, comme le couple hétérosexuel, est bien entendu appelé à la fidélité, aux engagements qui durent, aux engagements, je veux dire, dans la fidélité. Et c'est pour ça que nous avons besoin, tous, hétérosexuels comme homosexuels, et bien d'avoir la bénédiction de Dieu qui nous aide, qui nous donne une force supplémentaire, qui nous aide à faire ressusciter le pardon chaque matin, finalement. Et donc oui, nous avons besoin de cette aide de Dieu pour avancer et pouvoir aller vers nos frères et sœurs, même quand ils sont pécheurs. Troisième lecture que je vous propose, c'est une lecture spirituelle. Il y a des choses étranges dans ce texte. Il y a des détails insignifiants, comme Jésus qui s'assied sur le bord du puits à midi. Qu'est-ce que ça peut nous dire comme signe pour notre vie? Il y a des exagérations. Quelle femme, dans la culture de l'époque, aurait pu avoir 5 maris et en avoir un 6e? Ça n'a pas de sens, vous voyez, c'est une exagération impossible pour l'époque. Et puis il y a des incohérences. Quand Jésus dit à cette femme que si elle boit l'eau que Jésus lui donnera, elle n'aura plus jamais soif, et que la femme répond, eh bien si je n'ai plus jamais soif, je n'aurai plus besoin d'aller puiser de l'eau. Ça n'a aucun sens, au sens littéral. Pourquoi? Eh bien, quiconque a déjà vécu, si vous voulez, sans l'eau courante dans sa maison, sait très bien que l'eau que nous devons puiser au puits pour boire représente 1/10 de l'eau qui est utilisée dans la maison. Moi, je l'ai appris parce que j'ai un chalet perdu dans la montagne. Il faut faire 500 mètres pour aller chercher de l'eau avec des bidons sur une clé de portage. Et donc on se rend bien compte que si on boit 1,5 litre d'eau par jour, il faut 10 de litres d'eau par personne pour faire ne serait-ce que la cuisine. Et encore là-haut dans la montagne, on ne fait même pas la lessive. Et la toilette est extrêmement rustique. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous utilisons peut-être, 50 ou 100 litres d'eau par personne. Donc même si nous n'avions plus soif, il faudrait quand même aller chercher de l'eau. Alors quelle est cette lecture qui va nous permettre de prendre en compte les détails insignifiants, les exagérations et les incohérences de ce texte? Eh bien, Spinoza, célèbre et excellent théologien juif du XVIIe siècle, insiste sur cette méthode d'interprétation qui vient de l'interprétation rabbinique antique, reprise par Origène, bien sûr, par saint Ambroise, par saint Augustin et par bien d'autres, par Thomas d'Aquin, avec les 5 sens de l'écriture. Nous dit que quand un passage est soit insignifiant, soit incohérent, eh bien, ça veut dire qu'il faut lire au sens figuré. Qu'il y a là un clignotant orange pour nous dire « attention, il y a là quelque chose qui est important comme sens pour votre vie ». Alors rapidement, parce qu'il faudrait qu'on soit là jusqu'à demain matin pour essayer de lire ce texte qui est d'une richesse formidable, eh bien, il y a d'abord le thème du mariage qui est présent dans ce texte, et quelle chance, puisque c'est d'actualité aujourd'hui, bien sûr, avec la question du mariage. Le thème du mariage est présent, 5 maris plus 1, et puis le puits sur lequel Jésus s'assied. Le puits est connu dans la Bible comme le lieu de drague. C'est là que Isaac va pouvoir, le serviteur d'Isaac va pouvoir aller draguer la femme pour Isaac, Rebecca. C'est là que Moïse va aller draguer Tsipora. C'est là que d'autres encore, dans la Bible, de génération en génération, vont aller draguer pour rencontrer leur femme. Donc, Jésus, quand il fait cela au puits et qu'il va parler avec la Samaritaine, eh bien, il la drague. Et ce n'est pas qu'un thème qui est rare. Si vous voulez, Jésus est considéré comme l'époux. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas, pour la Samaritaine, d'épouser Jésus, littéralement, physiquement, mais il s'agit d'une alliance, si vous voulez, qui nous est proposée. Et ce texte nous propose d'évoluer dans le type d'alliance qui nous fait vivre. Alors l'alliance des cinq maris, ça représente bien sûr la loi, car le chiffre 5, c'est les cinq livres de la Torah, si vous voulez. Mais dans bien des civilisations, le 5 évoque l'orthopraxie, c'est-à-dire la loi, ce qu'il faut faire, respecter, etc. La femme, elle a peut-être abandonné donc cette loi si rigide dans le judaïsme pour passer au 6. Le 6, ça représente dans la Bible le matérialisme athée, car le monde a été créé matériellement en 6 jours. Et le 7, c'est le signe de la bénédiction, si vous voulez, le jour où Dieu ajoute, parachève sa création par la bénédiction. Et donc Jésus, à travers cela, nous invite à vivre en rapport les uns avec les autres, dans la bénédiction, si vous voulez, dans la bénédiction donnée, dans la bénédiction reçue. Et cela, je crois que c'est fondamental, bénédiction que l'on sent recevoir de Dieu directement, bénissant Dieu et apprenant ainsi à être bénédiction pour les autres et à savoir aussi reconnaître la bénédiction qu'est l'autre à nos côtés. Voilà un autre type d'alliance, si vous voulez, beaucoup plus libre, par l'esprit, nous dit Jésus, et non plus simplement par la lettre de la loi, non plus à tel ou à tel endroit, mais là où nous sommes, quand nous, tel que le cœur nous le donne d'être finalement bénédiction pour l'autre et bénéficiant de la bénédiction de l'autre. Et c'est bien cela qui est en cause avec cette histoire de l'eau, si vous voulez, oui. Il y avait le puits ancien de Jacob évoquant peut-être la Bible, l'ancienne source de vérité, de sagesse. Et finalement, ce que propose Jésus, c'est d'abord, il lui demande de l'eau, c'est-à-dire comme si Dieu nous demandait notre avis. Oui, Dieu est un Dieu qui demande l'avis de chacun d'entre nous. Nous avons notre mot à dire, notre avis, notre opinion, notre sensibilité est digne de vivre, d'être et d'exister. Et donc, la façon d'être de l'homosexuel, bien sûr, est minoritaire dans notre société. Combien ? 3, 5% ? Donc c'est minoritaire. Mais est-ce que, pour autant, la majorité doit écraser la minorité et de dire « parce que tu es minoritaire, tu n'as pas la voix au chapitre ». C'est une catastrophe. Au contraire, c'est la voix du minoritaire qui enrichit la voix de la majorité, qui donne un sens, qui réveille, qui est le grain de sel qui permet à toute la soupe d'avoir du goût. Et donc, Jésus, le Messie, demande à la femme de lui donner de l'eau, si vous voulez. Oui, la voix de chaque personne est bien entendu indispensable, même à Dieu lui-même, bien entendu. Alors ensuite, nous pouvons, comme la Samaritaine, apprendre à demander de l'eau à celui qui est source d'eau vive et qu'il y ait jaillissement d'eau à l'intérieur de nous-mêmes et que nous ne soyons plus simplement dépendants de lois anciennes, de préjugés, de tout ce qu'on nous a appris finalement, mais qu'il y ait jaillissement d'eau à l'intérieur de nous, même d'une femme samaritaine, qu'elle puisse devenir prophète, si vous voulez, prophète plus grande que Jacob, plus grande que Moïse, qu'elle-même devienne finalement, elle-même, une nouvelle Moïse. Je crois que c'est cela qui nous est proposé dans ce texte à chacune et chacun d'entre nous, pour que nous puissions, oui, vraiment avoir un jaillissement d'eau vive jusque dans la vie éternelle. Amen.
chanter Torrent d'amour. De l'offrande, prenons un petit temps de prière. Seigneur, tu reçois, tout nous vient de toi, nous, et nous te bénissons. Pas grave. Et nous te bénissons. Dieu qui nous accueille. Reçois notre participation financière
aux charges et tout à l'heure à l'organisation du pot qui suivra la célébration. Reçois aussi nos fatigues, notre énergie, notre espérance. Et le don des jarres de ce week-end. De toi nous vient tout don, Seigneur. Viens bénir en abondance. Amen.
1912, l'Assemblée des évêques de France devait examiner les conséquences du projet de loi concernant le mariage pour tous. La rédaction d'un rapport a donc été confiée à la commission Famille et Société pour éclairer ce débat. Visiblement, les rapporteurs n'ont pas les yeux rivés sur Rome. Ils conduisent leur travail avec l'intelligence du cœur qui leur permet de voir tout ce qu'a de positif la relation amoureuse de deux personnes de même sexe et aussi que leur revendication d'une reconnaissance officielle qui soit plus appropriée que le Pax. Certes, la Commission ne conclut pas à la légitimité du mariage pour les personnes homosexuelles, car cela pourrait mettre en danger la différenciation structurante de l'altérité homme-femme. Par la suite, ce rapport a été soigneusement enfermé dans un tiroir, et les évêques ont été sommés de se rallier à la position du cardinal de Paris. Ce rapport existe pourtant. Il est signé par 5 évêques, des théologiens et autres gens qualifiés. Il nous change du discours habituel du catéchisme romain et des énormités proférées à l'occasion de la manifestation des opposants. Ce rapport est à inscrire dans une lente et difficile progression de la reconnaissance des droits des gays et des lesbiennes. Nous en lisons les passages les plus significatifs. Gardons espoir. Notre action porte ses fruits. À nous de la poursuivre.
Refuser l'homophobie, le respect des personnes. Pendant longtemps, les personnes homosexuelles ont été condamnées et rejetées. Elles ont fait l'objet de toutes sortes de discriminations et de railleries. Aujourd'hui, cela n'est plus toléré. Le droit proscrit toute discrimination et toute incitation à la haine, notamment en raison de l'orientation sexuelle, et il faut se féliciter de cette évolution. Du côté de l'Église catholique, la Congrégation pour la doctrine de la foi invitait dès 1976 les catholiques à une attitude de respect, d'écoute et d'accueil de la personne homosexuelle au cœur de nos sociétés. La dignité propre de toute personne doit toujours être respectée dans les paroles, dans les actions et dans les législations. La lente évolution des mentalités. Si le respect de la personne est donc clairement affirmé, il faut bien admettre que l'homophobie n'a pas pour autant disparu de notre société. Pour les personnes homosexuelles, la découverte et l'acceptation de leur homosexualité relèvent souvent d'un processus complexe. Il n'est pas toujours facile d'assumer son homosexualité dans son milieu professionnel ou son entourage familial. Les préjugés ont la vie dure et les mentalités ne changent que lentement, y compris dans nos communautés et familles catholiques. Elles sont pourtant appelées à être à la pointe de l'accueil de toute personne, quel que soit son parcours, comme enfant de Dieu. Car ce qui, pour les chrétiens, fonde notre identité et l'égalité entre les personnes, c'est le fait que nous sommes tous filles et fils de Dieu. Le refus de l'homophobie et l'accueil des personnes homosexuelles telles qu'elles sont, font partie des conditions nécessaires pour pouvoir sortir des réactions épidermiques et entrer dans un débat serein autour de la demande des personnes homosexuelles. Entendre la demande des personnes homosexuelles. Une demande de reconnaissance. La diversité des pratiques homosexuelles ne doit pas empêcher de prendre au sérieux les aspirations de celles et ceux qui souhaitent s'engager dans un lien stable. Le respect et la reconnaissance de toute personne revêtent désormais une importance primordiale dans notre société. La valeur d'une relation affective durable. La société, tout comme l'Église dans le domaine qui lui est propre, entend cette demande de la part des personnes homosexuelles et peut chercher une réponse. Tout en affirmant l'importance de l'altérité sexuelle et le fait que les partenaires homosexuels se différencient des couples hétérosexuels par l'impossibilité de procréer naturellement, nous pouvons estimer le désir d'un engagement à la fidélité d'une affection, d'un attachement sincère du souci de l'autre et d'une solidarité qui dépasse la réduction de la relation homosexuelle à un simple engagement érotique.
Nous avons commencé en lisant un psaume de confiance. Et le pasteur Marc Pernot a terminé sa prédication avec le mot de bénédiction. Confiance et bénédiction, c'est un peu l'alpha et l'oméga de notre Dieu. Mais notre confiance a été mise à dure épreuve pendant de longs mois. Je ne sais pas vous, mais j'ai vécu des moments de rare solitude et où on se demande, nos frères et nos sœurs, où est-ce qu'ils sont? Et pourquoi autant d'haine et pourquoi autant de méchanceté? Et pourquoi ceux qui devraient nous conduire ont perdu le chemin de la justice? Je suis là aujourd'hui pour solliciter nos prises de parole et pour que tous ces fardeaux qu'on a dû porter pendant de longs mois puissent être déposés devant Dieu. C'est leur place. Mais nous avons aussi vécu, découvert des bénédictions. Peut-être le fait même d'être ici aujourd'hui, dans celui qui, sans être le Vatican des protestants français, ça lui ressemble fort, c'est peut-être un fruit, une bénédiction qui vient de cet combat acharné. Nous avons rencontré de nouveaux amis, entendu des paroles qui nous ont fait du bien aussi et découvert de nouvelles fraternités. Elles aussi ont leur place de louange devant notre Dieu. Donc je vous invite, chacune et chacun, à prendre la parole là où vous êtes. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de voix, vous pourrez peut-être faire appel à Gabriel avec le micro.
Cet après-midi, j'ai répondu en tant que secrétaire national de DJ à un très long mail que nous avions reçu avant-hier et qui me semble révélateur des dégâts que cause encore la position notamment de l'Église catholique. Jean-Alain, 25 ans, homosexuel à Lille, me pose un certain nombre de questions. Suis-je condamné à être toujours dans les ténèbres? Je n'entends que des choses négatives. Tout le monde me dit que je suis dans mon environnement, dans le péché. Aidez-moi. Si vous me dites des choses, ne soyez pas méchant avec moi. Voilà. Bien évidemment, je lui ai transmis les coordonnées de notre groupe de Lille et je lui ai fait un premier mail de réponse très rassurant, car il me dit, il avait terminé son mail en disant « Je souffre beaucoup au quotidien, aidez-moi ». Voilà, ça existe encore aussi actuellement.
Merci Marc.
Donc, je voulais dire que donc il y a très très longtemps, il y a eu donc le combat pour les Noirs, donc les droits civiques aux États-Unis. Après, il y a eu le combat pour les femmes. Maintenant, actuellement, il y a le combat pour donc les homosexuels, femmes et hommes. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on est quand même dans la bonne voie. Même si c'est compliqué, il faut rester optimiste. Il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours au Brésil, le mariage est autorisé pour tout le Brésil. Avant, c'était que dans certains États. Maintenant, c'est pour la totalité du Brésil. Donc ça avance. Il y a eu l'Uruguay il n'y a pas longtemps, la Nouvelle-Zélande. Bientôt, il y aura la Finlande. Donc je pense que ça reste positif. Et je voulais aussi remercier donc l'Église protestante, dont je fais aussi partie, car je vois que de plus en plus de personnes dans l'Église protestante parlent, s'expriment et commencent à essayer de faire en sorte que les gens se rencontrent, que les gens discutent. Il y a un réel débat et un réel dialogue plutôt dans l'Église protestante. Et j'aimerais que ce dialogue, ce vrai dialogue, se passe aussi dans l'Église catholique en France, puisque je pense que l'Église catholique, on n'entend pas beaucoup donc certains catholiques qui sont favorables au mariage pour tous. Plus d'un tiers des catholiques pratiquants sont favorables au mariage pour tous, mais on ne les entend jamais, on ne les voit jamais. C'est toujours les mêmes qui prennent la parole et qu'on voit dans la rue. Et voilà, et je voudrais dire que je suis très content d'être ici et qu'on est dans la bonne direction. Voilà.
Merci.
Juste un petit témoignage récent. un ami à qui je me plaignais d'une discussion gratinée sur l'homosexualité, sur le mariage gay, avec une vieille amie catholique, cet ami me disait, mais moi-même, cet ami est hétérosexuel, et il me disait, enfin il m'écrivait, moi-même, les discussions sur le mariage gay ont été pour moi l'occasion de me rendre compte de mon conditionnement, de mon propre conditionnement homophobe. Et je pense que beaucoup de gens, comme le disait le pasteur tout à l'heure, beaucoup de gens, c'est assez insidieux, et beaucoup de gens sont prêts, bien qu'ils se rendent compte qu'ils sont homophobes, malgré eux, ils sont prêts à changer de regard, et je pense que c'est quelque chose d'assez encourageant.
Merci.
Je rends grâce à Dieu de vivre dans un pays où, depuis quelques heures, la constitution de notre République aussi est devenue arc-en-ciel. C'est quelque chose qui vraiment me submerge de joie et de fierté. Il faut avoir conscience que ce qui se passe en France est suivi de près par de nombreux pays, notamment des pays d'Afrique francophone, où des églises chrétiennes tiennent un discours de haine et de persécution vis-à-vis des personnes homosexuelles, transsexuelles. Nous recevons à David et Jonathan des messages de gays et lesbiennes africains qui nous demandent de leur donner de l'espoir, des arguments, de les aider à vivre en somme.
Merci. Tu as dit combien tu avais passé par des moments de solitude pendant ces derniers mois. J'ai été témoin, et la communauté de Saint-Méry beaucoup, des moments de solitude dont personne n'a parlé, qui sont les femmes qui élèvent seules leurs enfants et qui en ont pris plein la figure sans que personne ne dise rien de cette situation. Voilà. Un petit point positif, que ça reste entre nous, il ne faut pas que ça sorte d'ici. Mon petit doigt m'a dit que l'équipe épiscopale de Paris est bien emmerdée d'avoir joué les apprentis sorciers et qu'elle se demande comment arrêter toutes ces manifestations qui semblent s'autodéclencher. Voilà.
J'ai une petite chose à dire. On n'en parle jamais. Et je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. À David et Jonathan, notamment, il y a certes une minorité, mais deux personnes de notre association qui ne sont pas favorables au mariage homosexuel. Il y a un dialogue avec ces personnes, comme avec notamment d'autres associations comme DUEC, et je pense que c'est important aussi d'accueillir une position différente à partir du moment où il y a un débat respectueux dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la compréhension. Il est important aussi de faire attention aux minorités qui peuvent exister, notamment au sein de David et Jonathan.
Moi, je me réjouis beaucoup, beaucoup de cette avancée formidable que nous devons vivre, je crois, le plus sereinement possible maintenant. Je crois que nous devons continuer de convoquer l'intelligence de tous nos frères, catholiques, protestants, orthodoxes, puisqu'il y en a aussi dans notre association. Je crois que, comme je vous l'avais dit lors de l'anniversaire de David et Jonathan, nous devons écouter la parole de Jésus quand il nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Chacun d'entre nous, nous sommes la lumière du monde, protestants, catholiques, et tout être humain est la lumière du monde. N'oublions pas cela. N'entrons pas dans la polémique. Avançons courageusement, joyeusement, sereinement. C'est maintenant, sans allusion politique.
À mon tour, je voulais vous témoigner aussi des signes plutôt positifs. J'ai eu l'occasion d'aller au théâtre récemment voir une pièce à la Gaîté avec Francis Huster et le fils Sardou, où c'était un débat entre un vieux curé et un jeune séminariste, et il y avait la question évidemment de les femmes peuvent-elles être curées, puis à un moment donné il y a eu la question du mariage qui est venue. C'était assez bien écrit, assez bien joué. En sortant de la pièce, j'ai essayé de tendre l'oreille et d'écouter un petit peu ce que c'est ces 50, 60 nerfs, plutôt aisés pouvaient avoir retenu de cette pièce. Et j'ai eu la surprise et la joie de pouvoir entendre, notamment un homme, à peu près 60 ans, 65 ans, qui disait à sa femme, j'aurais dû venir voir cette pièce avant, j'aurais peut-être pas fait les manifs.
Alors tu as évoqué tout à l'heure la solitude qu'on a pu ressentir dans ces jours de combat pour le mariage. Le pasteur a évoqué tout à l'heure le combat pour le droit de vote des femmes, pour l'égalité salariale homme-femme. Je pense qu'on ne doit pas. Il est important de ne pas oublier aussi qu'il y a d'autres combats qui continuent, que le racisme n'est pas éteint, que l'égalité salariale n'existe toujours pas en France, qu'il y a toujours des pauvres et des travailleurs qui luttent chaque jour et qui se sentent seuls également. On a parlé de lutter contre le communautarisme, et je pense qu'il est important aussi, nous, d'être signe auprès de ces personnes-là, signe de la présence divine si on est croyant, ou au moins voix de la raison et de la justice si on est athée.
Et moi, je voulais témoigner en quelques mots de mon cheminement, parce que pour dire que il y a un an, les questions d'ouverture du mariage, ça m'intéresse absolument pas. Je suis moi-même hétérosexuel. J'ai pas discuté des questions de mariage avec les quelques homosexuels que je connaissais jusqu'à présent, et je connaissais pas. J'étais un peu dans l'ignorance, même si je j'essayais de regarder avec bienveillance l'homosexualité. Je dois dire que quand on a commencé à parler de tout ça, ce qui m'a vraiment convaincu de prendre une position, j'allais dire, et de militer un petit peu, c'est la violence, les contre-vérités que j'entendais dans les arguments que beaucoup de personnes sortaient du côté des gens qui étaient opposés à ce projet de loi. Et ça m'a permis de... Je savais que, par exemple, une association comme David et Jonathan existait, mais j'en savais pas plus. J'ignorais totalement qu'il y avait des choses comme le Carrefour des chrétiens inclusifs, etc. Moi, au début, j'ai essayé de discuter. Je pensais que je pouvais faire changer d'avis plein de gens, mais évidemment, très vite, je me suis aperçu que non. Mais j'ai voulu être présent auprès de ceux qui, selon moi, subissaient vraiment un très mauvais traitement dans cette affaire-là. Ça m'a permis de rencontrer certaines personnes parmi vous qui sont présentes ce soir, beaucoup d'autres personnes, plein de chrétiens qui sont favorables à ce projet de loi, dont je savais qu'ils étaient nombreux, et ça me faisait enrager qu'on n'en parle jamais. Maintenant, je me dis que j'espère que reviendra très bientôt le temps où on pourra enfin rediscuter avec les opposants convaincus, et que on pourra se remettre au dialogue.
Je voulais juste avoir une pensée envers les jeunes, et deux types de jeunes très particuliers. D'abord, ceux qui sont chassés de chez eux, et l'association Le Refuge nous a annoncé que actuellement les demandes ont doublé là entre 2012 et les 5 mois de 2013, c'est-à-dire que plus de 900 jeunes sont lourdés de chez eux à cause de la révélation de leur LGBT. Bon, ça c'est un premier public et je voudrais qu'on pense à eux parce que je pense que c'est quand même une solitude très très profonde pour eux. D'autres aussi sont très seuls. Ce sont tous ces jeunes qui ont été obligés par leur famille de manifester contre le mariage et parmi eux, il y a fort à parier qu'il y en a certains qui demain découvriront une orientation sexuelle qu'ils méconnaissent ou peut-être même une identité de genre. Enfin, toutes ces personnes sont sans doute très seules et je pense que les uns et les autres nous aurons à cœur de les accueillir et je pense aussi que nous avons tous à cœur, même si c'est difficile, d'accorder le pardon vis-à-vis de tous ceux qui nous méprisent encore, parce que c'est la force du pardon qui nous fera sortir la tête haute.
Il y a un lieu où l'homophobie est extrêmement prégnante, mais personne n'en parle ou pas beaucoup. Ce sont les détenus, ceux qui sont prisonniers. David et Jonathan correspond avec un certain nombre d'entre eux, des gays, qui sont les derniers des derniers, qui sont souvent en danger, victimes de viols, victimes de mépris, victimes d'autres traitements de cela. Je voudrais les associer à notre prière ce soir.
Je voudrais juste rappeler qu'il n'y a pas que des transsexuels qui est la transphobie. Il y a aussi des personnes transidentitaires qu'on appelle des travestis, des transgenres ou des intersexués et aussi subissent tout ça. Mais on les entend peu parler parce qu'ils ne sont pas organisés. Et quand j'entends LGBT, j'ai envie de rajouter tout le temps I parce qu'ils existent aussi. Voilà, tout simplement.
Seigneur, nous sommes ici rassemblés, chacune et chacun, témoins de notre foi, de notre espérance, dans ta présence dans ce monde. Pour ceux qui se vivent dans les pays où l'homosexualité reste un crime, pour les pays ou sans aller jusqu'à la peine de mort, on risque sa sécurité et sa vie. Pour des pays comme le nôtre, où l'homophobie ordinaire peut pousser des jeunes femmes et des jeunes hommes au suicide. Nous sommes ici aussi témoins de ta présence, de la force vivante qui nous amène ta vie et qui fait avancer l'homme sur le chemin de ta justice. Amen.
Seigneur, tu nous rassembles pour écouter ta parole et prier en ta maison. Permets que nous trouvions toujours sur notre route des lieux et des personnes qui, à l'image du Christ avec la Samaritaine, accueillent le différent, l'étranger, le proscrit.
Seigneur, tu nous invites à prendre soin de nos contemporains. Rends-nous disponibles pour écouter, partager, et recevoir celles et ceux qui souffrent dans leur vie d'homosexuel.
Seigneur, tu nous envoies dans ce monde où la violence des mots et des actions est source de douleur, d'enfermement, d'ostracisme. Conduis nos pas dans ceux du Christ pour n'avoir comme réponse qu'un message d'amour et de paix.
Seigneur, tu nous offres des associations et des communautés pour lutter contre toute forme de mépris et d'exclusion. Inspire parmi nous toujours plus de personnes prêtes à s'engager avec conviction au service de chacune et de chacun, afin que toutes et tous y trouvent fraternité et épanouissement.
Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, qu'il nous remplisse de son amour et nous donne la sagesse, qu'il éclaire nos vies afin que nous puissions vivre et la communion de l'Esprit-Saint.
Que le Dieu d'amour, de bienveillance et de générosité guide nos pas sur ses sentiers de justice, puisse son amour et sa joie résonnaient peut-être ce soir un peu plus fort en nous. Mais avant de reprendre notre route, Seigneur, toi qui nous aimes au-delà de tout ce que nous pouvons t'imaginer, toi qui nous aimes tel que nous sommes en cet instant, ici et maintenant, toi qui es toujours présent dans cette église, dans la rue, quel que soit l'endroit du chemin où nous sommes, parfois égaré, mais jamais loin de ton amour, donne-nous, Seigneur, pourquoi pas, le courage d'aller à la rencontre de l'autre. L'autre, celui ou celle qui n'est certes et certainement pas comme nous, comme vous, comme moi, mais qui a tant à nous apporter. Seigneur, aide-nous à surmonter cette indifférence à la tolérance et cette intolérance à la différence. Quelles que soient nos différences, donne-nous, Seigneur, le pouvoir d'en faire une chance. Ouvre nos églises, nos temples, et surtout nos cœurs, au bonheur de l'écoute, du partage et du service de l'autre. Tant il est vrai que nous trouvons aussi notre bonheur dans le bonheur de l'autre. Seigneur, nous te remercions pour cette célébration. Frères et sœurs en Christ, bonne route et bon vent.
Dieu nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Par amour des pécheurs, la lumière est venue. Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, les cieux dansent de joie. Chante Alléluia. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez. Dieu vous donne la vie, par amour il s'est incarné. Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie. Chante Alléluia.
Le dernier.
Toi l'unique Seigneur, envoie l'esprit d'amour. Viens régner dans nos cœurs. Nous voulons hâter ton retour. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie. Chante Alléluia.
Ensemble.
Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie. Chante Alléluia.
Il y avait plus de... Pardonnez-moi. Il n'y avait plus de place sur la feuille pour les annonces. Alors je vous les donne comme ça. Le prochain rendez-vous au temple, c'est dimanche 26 mai, au temple réformé de Paris-Plaisance. Si vous voulez plus d'infos, c'est l'homme en bleu, là. Le prochain Fêter Dieu à Saint-Méry, animé par Spiritualité Plurielle, c'est le 14 juin. Je vous demande qu'on fasse quand même une petite ovation à Jacques Mérienne, qui depuis des années et des années continue à nous accueillir et à nous soutenir. Dans l'Église catholique, il n'y en a pas des bourrettes, hein. Donc Jacques, merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le lendemain, 15 juin, il y a le concert spirituel ici à 18h. 18h. Le 28 juin, à la cathédrale américaine, il y a la veillée interassociative avant la marche des fiertés. Donc cette année encore, c'est à la cathédrale américaine. Si vous voulez donner de votre temps, de votre énergie et de votre intelligence, c'est Pasquale qu'il faut voir. Le 29, le lendemain, donc marche des fiertés, il y a aussi un moment important pour nous tous, c'est le départ de Stéphane Lavignotte du temple de la Maison Verte. Et il y a une fête qui a lieu à partir de 18h, c'est ça? Voilà. Alors Stéphane, vous le connaissez tous, il s'en va du temple de la Maison Verte, on lui fait une grande fête ce soir-là. Chacun amène de quoi partager, quelque chose à manger et à boire, mais sans alcool, évidemment. Voilà. Je sais bien qu'on sera dans la liesse de la marche des fiertés, mais je pense que ça vaut le coup d'aller témoigner à Stéphane, qui lui aussi est toujours là depuis des années, pour nous soutenir. Voilà. Il n'est pas là ce soir, malheureusement. Je m'arrête dans une seconde. Je voudrais dire des merci à ceux à qui je casse les pieds depuis 3 semaines, 1 mois pour cette célébration. Marina, Brigitte, Bravo. Cécile, où est-ce qu'elle est, Cécile? Cécile, je vous signale que c'est une non-voyante qui fait les feuilles. Ça n'a l'air de rien, hein, avec un type qui change d'avis comme de chemise pour faire les feuilles. Voilà, Cécile, merci de ta patience. Gabriel, évidemment. Francis, qui lit quand même dans la perfection, vous avez repéré. François et Roger qui sont occupés du pot tout à l'heure qu'on va partager. Et Bob et Yann. Bob et Yann, ils ne savaient pas qu'ils faisaient la bénédiction il y a 2 jours. Vous voyez le résultat. Hein ? Ça promet pour l'avenir. Et puis un dernier mot pour Marc Pernaud, qui un jour de janvier, là-bas au bout, avec Gabriel, on est allé se présenter en disant « On est venu au concert spirituel, on connaît, vous connaissez peut-être DJ ?» Oui, oui, très bien. « Est-ce que vous voulez un petit peu soit nous accueillir ici, soit venir à fêter Dieu ?» Oui, oui. Un oui inconditionnel. Merci Marc. Vous nous indiquez où est le pot ?
Merci à chacun d'entre vous. Donc le pot, c'est derrière la porte qui est en, la porte au fond du chœur. Donc bonne soirée à vous tous.